Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le Parlement britannique rejette à une écrasante majorité l'accord de Theresa May sur le Brexit. Une défaite cuisante pour la Première ministre qui, dès demain, devra affronter une motion de censure de l'opposition travailliste. Dans ce journal, nous serons à Londres avec Isabelle Labéry et nous évoquerons les premières réactions européennes avec Quentin Dickinson. Emmanuel Macron lance le grand débat national à Bourtroude dans l'Eure en rappelant les lignes rouges de l'exercice. Pas question de revenir sur la suppression de l'ISF, le reportage de Yannick Falt. Le retour de l'affaire Benalla devant la commission d'enquête sénatoriale. Demain, le canard enchaîné révèle ce soir qu'Alexandre Benalla avait en fait 4 passeports diplomatiques. Dans ce journal également, nous évoquerons les violences au Zimbabwe avec notre invité, le chercheur Victor Magnani. On savait que Theresa May avait très peu de chances d'obtenir le feu vert du Parlement britannique pour son accord sur le Brexit, mais l'ampleur de la défaite de la Première ministre est impressionnante. Le texte négocié avec Bruxelles a été rejeté ce soir par les 2/3 des parlementaires. Nous sommes en direct de Londres avec Isabelle Labéry. Bonsoir.
Bonsoir.
Isabelle, ce vote de rejet est d'abord une défaite personnelle pour Theresa May.
Oui, bien sûr, on connaît la pugnacité, la ténacité de la Première ministre qui s'est fixée une mission, c'est mener à bien cet accord, aller au bout de ce Brexit pour honorer le résultat du référendum de 2016. Alors c'est vrai, 432 voix contre son texte, 202 pour, c'est un échec cuisant. Jamais aucun Premier ministre n'avait perdu de vote avec un tel écart de voix. Et ça veut dire effectivement qu'environ un député conservateur sur 3 a voté contre sa Première ministre. Theresa May, qui a pris la parole immédiatement après le résultat, a expliqué qu'elle était déterminée justement à trouver un texte en bonne et due forme. Elle pourra donc tout à fait revenir dès lundi devant le Parlement avec un autre texte remanié, même si à ce stade on ne voit pas bien ce que ses partenaires européens pourraient lui donner comme nouvelle garantie. Ils ont dit et répété que ce texte n'était pas renégociable. En tout cas, Theresa May n'envisage pas de démissionner. Sa porte-parole l'a redit de façon très claire tout à l'heure.
Alors justement, Isabelle, l'opposition travailliste a immédiatement déposé une motion de censure contre le gouvernement. Est-ce que ça signifie que Theresa May peut perdre dès demain son poste de Première ministre ?
Alors pas forcément, justement, elle peut survivre à cette motion de défiance. Vous avez par exemple ses anciens alliés unionistes irlandais, membres du DUP, qui sont pourtant farouchement opposés à son accord sur le Brexit, à son accord, mais qui ont annoncé qu'ils la soutiendraient dans cette motion de défense. Il peut donc se produire un scénario assez inédit d'une première ministre affaiblie, privée de ses principaux pouvoirs sur le Brexit, mais toujours en place. La réponse, ce sera demain.
Isabelle Labéry en direct de Londres, merci. Alors ce vote du Parlement britannique est aussi une défaite pour l'Europe. La perspective d'un Brexit sans accord se rapproche. Rappelons que le Royaume-Uni doit officiellement quitter l'Union européenne à la fin mars. Quentin Dickinson, bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à toutes et à tous.
Quentin, quelles sont les premières réactions des dirigeants européens ?
Eh bien, le tout premier à réagir aura été le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui tout à l'heure est rentré dardard à Bruxelles pour gérer cette situation sans précédent dans l'histoire de la construction européenne. Pour M. Juncker, si le processus est bloqué du côté des Britanniques, en revanche, le chemin de la ratification se poursuit du côté des 27. Le Parlement européen devrait donc prochainement être amené à mettre le traité de défaisance au vote, comme si de rien n'était. Ce traité, dit-il, constitue un compromis équilibré, le meilleur accord qu'on puisse concevoir et le seul moyen d'éviter une sortie chaotique du Royaume-Uni de l'UE. Il ajoute, je le cite, que « ce soir, le risque d'une telle sortie chaotique s'est accru ». De ce fait, la Commission européenne continue à mettre au point des systèmes ad hoc destinés à préserver les intérêts des 27 en limitant autant que faire se peut les inévitables et graves inconvénients d'un Brexit brutal. Il faut, conclut-il, que le Royaume-Uni clarifie sans tarder sa position. De son côté, le président du Conseil européen Donald Tusk a commis un tweet qui a le mérite de la clarté. « Si, écrit-il, si aucun accord n'est possible et que personne ne veut d'un Brexit brutal, qui aura le courage alors de dire qu'il ne reste qu'une seule solution ? Comprenez que le Royaume-Uni demeure membre de plein exercice de l'Union européenne. »
Quentin Dickinson, en direct de Strasbourg, où vous suivez la session du Parlement européen. En France, Jean-Luc Mélenchon salue ce soir le vote du Parlement britannique. « L'Union européenne décompose les gouvernements qui pactisent avec elle », écrit le chef des Insoumis sur Twitter. C'est donc à Bourtroude, dans l'Eure, qu'aura débuté le grand débat national consécutif à la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron a lancé l'exercice aujourd'hui devant 600 maires venus de toute la Normandie. Le chef de l'État a voulu montrer qu'il était à l'écoute des doléances déjà exprimées en mairie, mais il n'a pas manqué de rappeler les lignes rouges qu'il a fixées pour ce grand débat. Le reportage de Yannick Falt.
Emmanuel Macron le dit d'entrée de jeu, il est venu avant tout pour écouter. Il veut faire de ce débat une opportunité.
Je pense que nous pouvons faire du moment que traverse la France une chance. Ce qui est en train de remonter aujourd'hui, et qui vient de très loin, c'est une fracture sociale. On en parle depuis 25 ans.
Le chef de l'État cite Jacques Chirac, la fracture sociale, son discours fondateur de la campagne 95. Toutes les questions sont ouvertes, pas de tabou, assure le président. Les sujets évoqués sont nombreux, les dotations aux collectivités, les efforts financiers que l'État devrait faire aussi, le pouvoir d'achat, la CSG, mais aussi la survie de la maternité du coin, ou à travers un lapsus, un thème qui s'invite dans les discussions, Jean-Paul Legendre est le maire d'Yville, à 15 km de là.
L'ISF par tête d'habitant moitié moins important pour une commune rurale que pour une grande collectivité au-dessus de 100 000 habitants. DGF, qu'est-ce que j'ai dit ?
La DGF, la dotation générale de fonctionnement, confondue avec l'impôt sur la fortune. Certains réclament son retour. Pas question, répond une fois de plus le chef de l'État.
Est-ce qu'on vivait mieux avant ? Ben non. Il faut pas raconter des cracks. Hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe.
À l'inverse, pas de dogme sur les 80 km/h pour le président qui se dit ouvert à des aménagements. Les 80 km/h sur les routes secondaires, l'un des points persistants de crispation avec les gilets jaunes.
Yannick Falt à Bourtroude dans l'Eure. Par ailleurs, Emmanuel Macron a exprimé des réserves sur le RIC, le référendum d'initiative citoyenne réclamé par de nombreux gilets jaunes. On ne doit pas créer une situation de concurrence entre les formes de démocratie si directe ou représentative, a expliqué le chef de l'État. Emmanuel Macron, qui est loin d'en avoir fini avec l'affaire Benalla, nouvelle révélation du canard enchaîné ce soir. L'ancien conseiller de l'Élysée avait en fait 4 passeports diplomatiques, des passeports qu'il n'a restitués que la semaine dernière, soit près de 6 mois après son licenciement. Et demain, la commission d'enquête sénatoriale va procéder à de nouvelles auditions. Elle va entendre 2 ministres et le directeur de cabinet du président. Les précisions de Laurent Sénéchal.
C'est surtout le directeur de cabinet du président, Patrick Stroda, qui intéresse la commission. C'est lui qui est censé avoir sanctionné Alexandre Benalla et donc avoir récupéré les passeports diplomatiques et le reste du matériel qui avait été mis à la disposition du conseiller. Ce qui interroge les sénateurs, ce sont aussi les dernières affirmations du canard enchaîné, selon qui Patrick Stroda a omis de demander la restitution d'un passeport de service et surtout d'un téléphone Théorème, un système classé secret défense qui permet des communications ultra sécurisées. Selon plusieurs sénateurs de la commission, un conseiller du niveau d'Alexandre Benalla n'aurait même pas dû se retrouver en possession d'un tel dispositif. Les sénateurs doivent aussi interroger Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur l'organisation de la police de l'air et des frontières. Il faut comprendre comment sont vérifiés les passeports diplomatiques dans les aéroports. Enfin, la commission demandera à Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, comment sont attribués, puis récupérés ou annulés les passeports diplomatiques. C'est d'ailleurs la première fois que le chef de la diplomatie française est entendu dans le cadre de cette affaire Benalla.
Laurent Sénéchal, merci. Alexandre Benalla lui-même sera entendu par la commission d'enquête sénatoriale le 21 janvier prochain. À l'actualité à l'étranger, au moins 6 morts au Kenya dans une attaque djihadiste contre un complexe commercial de Nairobi, la capitale. Plusieurs des victimes ont été abattues alors qu'elles déjeunaient dans un restaurant. L'attaque a été revendiquée par les Chebabs somaliens, un groupe islamiste auteur de plusieurs attentats au Kenya. Le Zimbabwe est en proie à une brusque flambée de violence. Au moins 3 personnes ont été tuées lors de manifestations contre la vie chère ces derniers jours. Le gouvernement zimbabwéen a décidé ce week-end de doubler le prix du carburant. Les syndicats ont aussitôt lancé un appel à la grève générale, la première depuis la chute de l'ancien dictateur Robert Mugabe fin 2017. Pour parler de cette situation, un invité dans ce journal, Victor Magnani, chercheur au Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales. Bonsoir.
Bonsoir.
Victor Magnani, la hausse des prix du carburant est-elle la seule cause de ces violentes manifestations au Zimbabwe ?
Alors non, c'est un élément déclencheur, mais ce n'est pas l'unique raison, bien évidemment. Les Zimbabwéens vivent dans une situation de précarité extrêmement importante depuis plusieurs années. L'espoir a été très vif au moment du coup d'État de novembre 2017. Il y a eu une vraie attente de la part des Zimbabwéens à ce moment-là. Les gens ont défilé dans la rue en espérant que leur situation allait s'améliorer. On est un peu plus d'un an après ce coup d'État et la situation économique ne s'est pas améliorée, voire elle s'est dégradée. Pour certains, l'inflation augmente, ce qui conduit à une augmentation des prix de biens de consommation de base. Hein, le prix de l'eau, du pain, des médicaments a connu de fortes augmentations et ça touche directement des populations qui sont dans une situation de précarité parfois extrême.
Comment on peut expliquer cette crise économique que traverse le pays ?
Alors, je crois qu'il ne faut pas nier l'héritage hein, de la période de Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa est arrivé au pouvoir en héritant d'une situation économique exsangue. Ça, c'est un fait. Il s'est présenté comme le candidat du renouveau, celui qui allait relancer l'économie. Et pour ce faire, il entendait restaurer la confiance, notamment des investisseurs étrangers. Et je crois que sur ce point-là, on est encore très loin du compte, d'une certaine manière, puisque les investissements étrangers ne sont pas revenus dans le pays. Et puis, les Zimbabwéens eux-mêmes sont peu confiants dans les capacités du gouvernement à créer de l'emploi et associer l'ensemble des Zimbabwéens dans l'économie formelle au Zimbabwe.
Pourtant, le Zimbabwe, c'est un pays qui a des ressources naturelles.
Qui a des ressources naturelles, qui a beaucoup d'atouts, hein. Objectivement. Je parlais de l'agriculture, qui est une richesse également. Les infrastructures ne sont pas de si mauvaise qualité que cela. Donc il y a des ressources, qu'elles soient naturelles ou humaines également, puisque les Zimbabwéens sont plutôt bien formés. Le système éducatif, y compris pendant les années de Robert Mugabe, était de qualité. Donc il y a beaucoup d'atouts qui devraient permettre un avenir meilleur, mais effectivement, la situation est loin d'être satisfaisante et très inquiétante.
Alors, l'actuel président Emmerson Mnangagwa est aujourd'hui très contesté. Ça signifie qu'il ne respecte pas le jeu démocratique ?
Alors, il faut remettre l'arrivée au pouvoir d'Emmerson Mnangagwa dans le contexte. Hein. Il est arrivé à l'issue d'un coup d'État en novembre 2017. Ce coup d'État a été validé par la communauté internationale qui ne l'a pas dénoncé en tant que tel, qui a laissé faire les choses, ce qui a conduit Emmerson Mnangagwa à chercher une légitimation par des élections libres et démocratiques. Et les premiers mois de son arrivée au pouvoir, il a vraiment essayé d'ouvrir le champ politique. Il s'est engagé sur la libéralisation d'un certain nombre de champs, que ce soit médiatique ou il a permis l'expression politique des Zimbabwéens de manière assez efficace, à vrai dire. Il s'est engagé également sur le fait que des observateurs internationaux seraient conviés aux élections d'août 2018. Et sur ces points-là, il y a eu des changements assez manifestes. Les élections en tant que telles se sont passées de manière bien meilleure que les scrutins précédents organisés sous Robert Mugabe. Donc beaucoup d'éléments étaient annonciateurs de changements positifs. Néanmoins, peu après le jour du scrutin, l'opposition a dénoncé des irrégularités et surtout les mobilisations de militants de l'opposition ont été sévèrement réprimées puisque l'armée a tiré à balles réelles sur des opposants, sur des manifestants, ce qui a provoqué la mort de 6 personnes en août 2018. Donc là, il y a eu vraiment un basculement qui est tout à fait manifeste et qui a sans doute indiqué que le réflexe sécuritaire perdurait et qu'il y avait des continuités évidentes avec le régime de Robert Mugabe.
Ce qui signifie que le pays n'est pas complètement sorti de la dictature.
Ou en tout cas, il y a des continuités en termes de répression des mobilisations, ça c'est évident. Les élections, alors il faut lire les rapports des missions d'observation, elles notent tout de même qu'il y a eu des améliorations tout à fait manifestes. Je crois que c'est surtout dans l'acceptation de la contestation et de la mobilisation populaire qu'il y a des difficultés à observer des ruptures. Ce qu'on observe actuellement avec les mobilisations de Zimbabwéens qui se mobilisent pour contester la prise des hausses du carburant, notamment, ou pour réclamer des changements plus concrets dans leur vie quotidienne. Ces gens-là sont réprimés très durement, et là, il y a des continuités évidentes avec le régime de Mugabe. Et c'est sur quoi était attendu Emmerson Mnangagwa pour restaurer la confiance.
Victor Magnani, chercheur à l'IFRI, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. C'était une promesse de campagne du nouveau président brésilien. Jair Bolsonaro a assoupli aujourd'hui les règles de détention d'armes à feu au Brésil. Objectif affiché, armer les gens bien contre contre les criminels, avec le risque d'augmenter la violence dans un pays où la criminalité atteint des niveaux records. Le temps demain, gris en général, avec de faibles pluies sur le nord-ouest et le sud-est. Quelques éclaircies se développeront dans le sud-ouest. Température minimale de moins 3 à 9 degrés. Les maximales iront de 4 à 14 degrés jusqu'à 17 degrés près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.